Religion du monde, Geneviève Delrue.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au sommaire de Religion du monde, le prochain voyage du pape François en Irak. Du 5 au 8 mars, François se rendra dans plusieurs villes du pays à la rencontre de tous les Irakiens, chrétiens et musulmans. Un voyage très attendu. Et puis toujours, dans le cadre du carême, nous poursuivons avec l'orgueil, la luxure et l'avarice, la série des 7 péchés capitaux, publiée par les éditions du Cerf. En 2000, le pape Jean-Paul II voulait s'y rendre, mais la situation sécuritaire l'en avait empêché. C'est donc le pape François qui effectue ce voyage dans ce pays meurtri par 3 décennies de guerre, de destruction, de terrorisme islamiste, sans oublier l'embargo meurtrier qui, de 1991, après la première guerre du Golfe, à 2003, tua plusieurs centaines de milliers d'enfants. Vendredi prochain, donc, le pape François s'envolera pour Bagdad. Une visite de 4 jours sous le signe de la paix, de la réconciliation entre communautés, de l'entente interreligieuse. Au cours de ce voyage historique, François sera reçu à Najaf par l'ayatollah al-Sistani, cela 2 ans après sa rencontre à Abu Dhabi, avec Ahmed al-Tayeb, l'imam d'Al-Azhar, la prestigieuse institution sunnite. Rencontre où ils avaient signé le document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune. Sur l'enjeu de ce voyage du pape François en Irak, on écoute Mgr Pascal Golnisch, directeur de l'œuvre d'Orient, très impliqué au Kurdistan irakien dans l'aide aux personnes déplacées.
Le pape va donner un message de confiance et d'espérance aux Irakiens. L'Irak a souffert considérablement, pour aller vite, la guerre Irak-Iran, les violences contre les chiites, contre les kurdes, les 2 interventions occidentales, l'interdiction des médicaments et autres sanctions économiques ont peut-être fait 1 million de morts, dont 500 000 enfants, les exactions de Daesh. C'est une longue histoire de souffrance du peuple irakien.
Un pays martyr.
Oui, je pense que absolument, et que donc il a besoin de reprendre confiance en lui-même. Beaucoup de pays extérieurs se sont donnés à eux-mêmes le droit de venir en Irak. Je pense, donc il y a eu la guerre Irak-Iran qui a tout de même fait 1 million de morts. Je pense aux coalitions occidentales, mais aussi à l'armée turque, etc. Donc il faut redonner à tous les Irakiens le sentiment de leur dignité d'être irakien, de leur confiance, de leur espérance. Et dans cet Irak qui reprend confiance en soi, eh bien les chrétiens, bien sûr, sont confortés dans la légitimité qu'ils ont à rester dans leur propre pays, cela va de soi, dans aussi leur mission au sein de l'Irak. Donc il ne s'agit pas, je ne sais pas moi, de protéger les chrétiens parce que le pape est là face aux musulmans. Ce n'est ni ce que veulent les chrétiens, ni ce que veulent les musulmans. Il veut conforter l'Irak, et dans cet Irak, les chrétiens ont leur place, ils sont chez eux, et ils ont une mission au service de la population au nom de leur foi chrétienne.
Alors, sur cette rencontre que le pape donc accomplira le samedi à Najaf avec le grand ayatollah al-Sistani, comment l'interpréter ? Est-ce que c'est une sorte de réponse, de symétrie que le pape veut donner en parlant cette fois-ci au monde chiite, après avoir parlé au monde sunnite ?
Il faut d'abord savoir que l'Église catholique, à différents niveaux, a des contacts très réguliers, tant avec le monde sunnite qu'avec le monde chiite. Il y a eu régulièrement, ces dernières années, des évêques de France qui se sont rendus auprès des responsables chiites en Iran. Donc on ne part pas de zéro. Mais évidemment, c'est la première fois qu'il y a une rencontre à ce niveau. Et donc, dans ces premières rencontres, il s'agit d'abord, je dirais, un peu de casser la glace, si vous me permettez cette expression, de commencer la confiance, de commencer la rencontre. Avec le recteur d'Al-Azhar, les relations n'ont pas été aussi chaleureuses tout de suite. Il a fallu faire les premiers pas, faire l'approche, se découvrir, se faire confiance, se rencontrer, se parler. Et donc, cette étape de relation avec le grand ayatollah Sistani, qui est une personnalité considérable sur le plan religieux dans le monde chiite, eh bien, ce sera une étape importante pour avancer sur ce chemin qui a déjà commencé, mais donc qui va être encouragé, qui va se poursuivre. Il y aura d'autres rencontres. Peut-être qu'un jour, le grand Ayatollah Sistani lui-même le rendra sa visite au pape à Rome. Vous voyez, petit à petit, les relations se nouent et cela arrive finalement à partager des convictions où chacun fait donc un pas vers l'autre dans le respect mutuel, dans le service de la population, etc. Donc vous voyez, c'est comme ça que cela se passe. Donc il ne faut pas en attendre quelque chose de tout à fait considérable. C'est une étape très importante dans un chemin qui est déjà commencé et qui se poursuivra. Il ne s'agit pas de faire une symétrie avec le monde chiite, mais le pape venant en Irak, la majorité des Irakiens étant chiites, hein, plus de 60% des Irakiens étant chiites, il y a les hauts lieux historiques du chiisme sont en Irak, et notamment à Najaf, mais pas que, et bien évidemment c'est une étape très importante dans des relations qui ont déjà toute une histoire.
Monseigneur Pascal Gollnisch, directeur de l'Œuvre d'Orient. Christian Lochon, arabisant, spécialiste de l'islam, au cours de sa longue carrière au Maghreb, au Mashrek et au Proche-Orient, a travaillé en Irak où il a été attaché culturel et directeur du Centre culturel français. Auteur de nombreux articles, il a signé en 2016 « Chrétien du Proche-Orient, grandeur et malheur » à la Librairie d'Amérique et d'Orient. En 2017, il s'est rendu au sein d'une délégation en Irak et il décode pour nous les différentes étapes du voyage du pape François qui, après Bagdad, se rendra successivement à Najaf, Our, Erbil, Mossoul et Karakoche.
En fait, sa sainteté tient à rencontrer l'ensemble des Irakiens. Il faut rappeler quand même que les chrétiens étaient à peu près 10% de la population. Ils sont devenus 2%, 2, 3%. Donc si sa sainteté venait uniquement pour les chrétiens d'Irak, ce serait certainement mal vu. Il est apprécié en tant que personnalité internationale et de ce fait, je crois que les étapes que vous venez de citer montrent bien les différentes strates de la population irakienne. En effet, il est à Bagdad, il rencontre donc naturellement les officiels. Je me permets de rappeler simplement que le gouvernement de l'Irak est un gouvernement un peu comme le gouvernement libanais, c'est-à-dire donc avec des tendances religieuses différentes. Le président de la République étant kurde sunnite, le président du Conseil étant arabe chiite et le président du Parlement étant arabe sunnite. C'est-à-dire donc ces personnalités représentent, si vous voulez, à L3, pratiquement 97% de la population irakienne. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. En même temps, les chrétiens, naturellement, ne seront pas négligés, puisque le pape assistera à une messe à la cathédrale syriaque catholique de Bagdad et sera reçu, naturellement, par le patriarche dont la résidence est à Bagdad, le patriarche chaldéen.
Cathédrale où, effectivement, il y a un attentat en 2010 avec une quarantaine de morts.
Exactement, c'est-à-dire c'est une cathédrale tragique. Nous l'avons visitée en 2017 et je dois dire que le gouvernement irakien a entouré de murs, c'est un des lieux de religion les plus protégés. Et puis, il va se rendre à Our. Our représente naturellement toute la tradition des trois religions, hein, les trois religions du livre, comme disent les musulmans, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme et l'islam, notamment avec la naissance d'Abraham dans ce lieu. Et il faut aussi dire que nous sommes dans une province chiite en même temps. C'est pour ça que le pape ira tout de suite après, à une centaine de kilomètres, on le déposera, j'imagine, en hélicoptère, et il sera reçu par l'ayatollah Sistani, qui est un des quatre grands ayatollahs qui sont à la tête de l'islam chiite mondial. Les trois autres sont iraniens. Lui-même vit à Najaf Najaf est une ville de pèlerinage, Najaf, Kerbela, et donc la plus grande partie des chiites dans le monde va en pèlerinage là.
C'est la Lourdes locale.
Oui, absolument. C'est extrêmement important. C'est là où les chiites vont se recueillir, exactement comme les chrétiens vont se recueillir à Lourdes. Et il va ensuite être transporté dans le nord, parce que là, il faut rappeler peut-être à nos auditeurs, qui vérifieront sur la carte, de Bagdad jusqu'à la mer, ce sont des zones chiites. Mais quand vous allez au nord de Bagdad, vous rentrez en zone sunnite. Et donc, une des grandes villes sunnites de l'Irak, c'est Mossoul. C'est pour ça que le pape va y aller, non seulement pour rencontrer, bien sûr, des musulmans sunnites. Je pense que là, il y a les nouvelles universités qui ont été reconstruites. Et puis aussi, la cathédrale irakienne, la cathédrale chaldéenne, qui a été reconstruite également. Et donc ça, je crois que c'est extrêmement important, puisque là, Sa Sainteté, les visiteurs, tous les autres seront en mesure de rencontrer des Irakiens sunnites, des Irakiens chrétiens. Et puis ensuite, Erbil. Erbil, vous le savez, vous l'avez décrit dans des émissions précédentes, c'est une ville où il y a eu beaucoup de réfugiés, 100 000 réfugiés. C'est en même temps le siège du gouvernement, donc autonome, du Kurdistan, mais le Kurdistan irakien est encore dans c'est un gouvernement fédéral, n'est-ce pas? Et donc Erbil a cet avantage à la fois dans une région kurde, mais en même temps, de venir certainement remercier les Kurdes pour l'accueil qu'ils ont eu, qu'ils ont fait aux nombreux chrétiens qui ont été expulsés de la plaine de Ninive. Alors, nous parlons de la plaine de Ninive. Ça sera la dernière étape. À Karakoch, je crois que maintenant, nos auditeurs sont familiers par vos émissions avec Karakoch, où il y a eu la reconstruction d'églises. Karakoch, c'est important parce que c'était une ville de 70 000 habitants, avant l'arrivée de Daesh en 2014, 70 000 habitants chrétiens et syriaques, et c'est la Rome des Syriaques, si vous voulez. Si bien que si vous totalisez toutes ces stations, toutes ces étapes, vous voyez en fait que rien n'a été laissé de côté.
Christian Lechon, comment voyez-vous la venue du pape François à Najaf et sa rencontre avec l'ayatollah al-Sistani?
Alors Najaf, c'est un lieu extrêmement sacré pour les chiites. Il faut bien penser que les chiites représentent 63% de la population et que les chiites ont été persécutés pendant très longtemps. Jusqu'en 2003, les chiites n'ont jamais été au gouvernement. Il n'y a pas eu de premier ministre chiite, par exemple. Que ce soit le gouvernement monarchique, jusqu'en 1958, puis le gouvernement du Baas, puis le gouvernement de Saddam Hussein, il n'y a jamais eu de personnalité chiite associée. Et donc là, à partir de 2003, ça a été une sorte de revanche. Ensuite, Najaf, c'est un peu le Lourdes des Irakiens. Najaf, Kerbela, ce sont des endroits où les chiites du monde entier se retrouvent. Et donc c'est un lieu extrêmement important. Lorsque le pape est venu, lorsqu'il vient en France, il doit aller à Lourdes. Lorsqu'il va en Irak, tout naturellement, il va à Kerbela et Najaf. Et là, il va rencontrer une personnalité qui est extraordinaire. C'est un des grands ayatollahs. Et le chiisme, le panchiisme, si vous voulez, est dirigé par quatre grands ayatollahs qui sont tous iraniens. Seul Sistani est irakien de nationalité et en même temps, il est d'une très grande famille de Najaf. Cette famille est très nationaliste et Sistani montre justement le désir d'une partie des chiites irakiens de ne pas adhérer à un pan-iranisme. Il y a une raison théologique. La raison théologique, c'est que depuis l'avènement de Khomeini, les chiites partent du principe que le clerc est supérieur aux gouvernants. C'est un principe qui a été adopté par une partie des chiites au XVIIIe siècle. Ça ne fait pas partie du début du chiisme. Mais ce principe politique, Sistani le refuse, comme une assez grande partie d'ailleurs des Irakiens qui sont attachés à la République et non pas à un État islamique. Ça, je crois que c'est extrêmement important. On ne le sait pas toujours, mais ils y tiennent. Et donc, certainement, il y aura une très grande entente entre l'ayatollah Sistani et sa sainteté le pape, dans la mesure où ce sont deux hommes qui représentent leur religion au plus haut niveau.
Christian Lechon, spécialiste du Proche-Orient et fin connaisseur de l'Irak. Pour les chrétiens, c'est le temps du carême, la période de 40 jours qui précède Pâques. Alors que les traditionnelles conférences de carême de Notre-Dame de Paris, qui se déroulent cette année à Saint-Germain-l'Auxerrois, portent sur le salut, les éditions du CERF, nous vous le disions la semaine dernière, ont choisi de publier une collection Un brin iconoclaste intitulée « Les sept péchés capitaux » qui reprennent les péchés capitaux tels que définis par l'Église catholique. La paresse, la gourmandise, l'avarice, la colère, la luxure, l'orgueil et l'envie. Pour l'éditeur, ces péchés tels qu'ils furent établis dès le IVe siècle de notre ère dans le désert égyptien par des moines ascétiques racontent la condition humaine et l'histoire de l'humanité. L'originalité de cette collection réside dans le choix des sept auteurs. Pas de théologiens, mais des écrivains pour se pencher sur ces péchés, mais avec un regard contemporain. La semaine dernière, nous avons ouvert cette collection avec l'envie. Nous la refermons aujourd'hui avec l'orgueil, la luxure et l'avarice. C'est l'écrivain, critique littéraire et ex-éditeur aux éditions du CERF, Laurent Nunez, qui a signé l'orgueil, un texte à mi-chemin entre le roman, l'essai et le journal intime. Laurent Nunez, bonjour.
Bonjour Geneviève.
Comment avez-vous reçu cette proposition, n'est-ce pas, d'écrire l'orgueil ?
Au début, c'est un peu vexant parce qu'on a l'impression qu'on serait orgueilleux. C'est-à-dire que celui qui a pris la gourmandise, il est gourmand, ce serait possible, d'accord. Mais d'un coup, qu'on me demande de faire l'orgueil, c'est un petit peu en effet vexant. Alors que presque tout dans mes livres, à chaque fois, j'essaye justement de pas jouer la grosse voix, de pas surjouer, en tout cas dans l'écriture. En fait, c'est passé de manière assez différente de ce qu'on peut penser. C'est passé très rapidement. On avait demandé à un précédent auteur, dont je tairai le nom, de faire l'orgueil, et il avait au tout dernier moment annulé.
Sans raison.
Sans autre raison peut-être que son orgueil. et du coup, moi je travaillais au CERF, j'étais éditeur encore, je gérais pas cette collection. Et en blague, je me suis dit, si vous voulez, je peux conclure. On avait six auteurs qui avaient accepté depuis des mois de finir le livre, et il nous restait encore celui-là, et donc j'ai décidé de le faire, et je l'ai fait pendant le confinement en 3 mois.
Quelle définition déjà donneriez-vous de l'orgueil ?
C'est complexe parce que l'orgueil, on a trop souvent tendance à le confondre avec la vanité. La vanité, c'est l'image de soi, c'est la fierté de soi alors qu'il n'y a pas de raison. L'orgueil, c'est la fierté de soi, de ce qu'on fait, alors qu'on a raison de sentir ça. Mais l'orgueil, c'est être tellement satisfait de soi qu'on pense que c'est important pour le monde. Alors qu'en fait, le monde se moque totalement de ce qu'on est, si on réussit à faire des choses, si on arrive à mieux penser que quelqu'un, à soulever plus de poids que quelqu'un, à faire mieux que quelqu'un. L'orgueil, finalement, c'est quoi ? C'est toujours la même chose. C'est moi faire mieux que quelqu'un d'autre. Ça n'a pas grand intérêt.
Si ce n'est que ça peut quand même permettre des grandes œuvres ou de grandes réalisations.
Évidemment, Victor Hugo, je pense qu'il était très orgueilleux d'avoir écrit Les Misérables. Et il avait raison. C'est-à-dire qu'il était très fier de ça. Mais ce qui est bien avec l'orgueil, il y a un orgueil que j'aime bien, c'est l'orgueil créatif. C'est-à-dire que c'est l'orgueil qui permet, quand on a fait quelque chose de génial, de refaire autre chose. Et c'est ce que font les grands artistes, finalement. Ils sont très orgueilleux d'avoir réussi à tailler dans le marbre, à écrire un roman ou quoi. Et du coup, ils décident de retenter leur chance. Ça, c'est cette version de l'orgueil que j'aime bien. Par contre, l'orgueil un peu, la suffisance, les messieurs prud'hommes très fiers de ce qu'ils sont. Vous savez, c'est la phrase de Montaigne. Aussi haut qu'on soit assis, on n'est jamais assis que sur notre cul. Voilà, moi, je vois ça presque constamment.
Alors, Laurent Nunez, l'orgueil, c'est lié à la démesure. On trouve dans les mythes, dans la mythologie, dans les textes fondateurs religieux, de nombreux exemples de démesure. Vous ne vous en êtes pas servi. Vous avez préféré aller du côté des écrivains, qui, bien sûr, c'est votre domaine, c'est votre monde.
C'est vrai que l'orgueil qui me semble le plus étrange, quand même, c'est quand même l'orgueil de l'artiste. C'est-à-dire, l'écrivain, c'est absolument génial. Il utilise les mots de tout le monde. Il fait des phrases comme tout le monde, et il estime que ça vaut plus que les autres, qu'on peut l'acheter, que ça peut se vendre. Moi, ça me fascine. Et ça me fascine alors que c'est mon sixième livre, et que j'essaye vraiment de comprendre ça. Donc j'ai étudié les figures très étranges de Duras, fasciné d'avoir vendu 1 million d'exemplaires de L'Amant, Baudelaire qui est prêt à tout pour qu'enfin on le remarque, même à humilier sa mère, Racine qui arrête d'écrire les tragédies qu'on connaît, qui sont merveilleuses, pour tout bêtement accepter un emploi où il doit écrire les devises des petits tableaux de Versailles pour le roi. Donc voilà, c'est des choses absolument incroyables que j'ai fait pour essayer de comprendre comment fonctionne l'orgueil, mais c'est pas seulement un orgueil littéraire. Parfois, j'étudie aussi l'orgueil des croyants. Au tout début du livre, je raconte l'histoire d'une vieille dame qui est très orgueilleuse parce que elle donne de l'argent à tout le monde et les gens ne la remboursent pas. Et elle a l'impression que là, secrètement, elle suit les desseins du ciel pour punir ces gens-là. Et ça, c'est... Voilà. Croire qu'on est dans un rouage divin pour punir les autres, ça, c'est pas de l'orgueil.
Oui, celle que vous appelez, ça c'est un très bon titre, Eugénie du christianisme.
Mais oui, Eugénie du christianisme, c'est vraiment celle qui croit qu'elle est supérieure aux autres. Parce que les autres lui ont fait un sale coup, je dirais pas lequel, mais voilà, elle est persuadée que finalement, quand les autres l'abusent, parce que c'est ce qui se passe dans le livre, ils ne lui rendent pas l'argent qu'elle leur prête, finalement, ils se compromettent auprès de Dieu et elle en est très satisfaite. C'est-à-dire qu'elle se sacrifie pour le plaisir de voir les autres tomber.
Ça, c'est presque diabolique.
Bien sûr, mais vous savez que l'orgueil... L'orgueil, c'est vraiment le sentiment du diable. C'est Lucifer qui se croit tellement beau qu'il est au-dessus, qu'il croit qu'il peut porter indéfiniment la lumière, et que c'est lui d'ailleurs qui porte la lumière. C'est l'étymologie. Il croit vraiment que l'orgueil, c'est vraiment le sentiment de base. C'est croire qu'on est supérieur à la divinité.
Ce sera la conclusion de notre échange, Laurent Nunez. À un moment donné du livre, vous faites allusion à un échange dans lequel il est dit « Nul ne peut crocheter les portes du ciel ».
Oui, à un moment, je raconte cette anecdote très étrange des frères Goncourt qui discutent avec un astronome et découvrent, effarés, mais vraiment apeurés, qu'un jour ou l'autre, dans quelques milliers d'années, un astéroïde détruira la Terre et détruira tout. Et les Goncourt, les deux frères, s'exclament « Oh, même nos livres !» Eh bien oui, c'est vrai. Tout ce qu'on fait, on le fait dans la finitude. Il n'y a pas lieu d'en désespérer puisqu'on n'a pas le choix. Donc, voilà, il faut prendre ça avec un vaste éclat de rire, espérer qu'il reste quand même des choses, mais savoir que tout ce qu'on crée, tout ce qu'on fait sur la Terre, disparaîtra.
Même si vous avez une rue qui porte votre nom, ou au pire un gymnase.
Oui, c'est vrai que je parle de cet étrange orgueil, cet étrange fierté d'après sa mort, d'être reconnu par la société. Mais ça ne dure qu'un temps, vous savez. Regardez à Paris ce qui se passe, il y a des commissions qui, tous les 20 ans, changent le nom des rues. Ça, c'est vraiment... S'il y a un contraire de l'orgueil, c'est vraiment ça. Avoir sa rue plutôt pendant 20 ans, et tout d'un coup, une commission de gens qu'on ne connaît pas, qui décide de vous débaptiser, c'est vraiment mourir deux fois.
C'était Laurent Nunez, auteur bien vivant de L'Orgueil dans la collection Les 7 péchés capitaux.
C'est une femme, Laurence Nobécourt, auteure d'une quinzaine de romans et de récits qui signe l'essai sur la luxure de la collection Les Sept Péchés Capitaux aux éditions du Cerf. Laurence Nobécourt vit au cœur des collines de la Drôme provençale. Alors, en ligne de Dieu le Fit, Laurence Nobécourt, bonjour.
Bonjour.
Cet essai, vous l'avez donc écrit parmi bien d'autres essais. Comment avez-vous reçu cette idée d'écrire précisément sur la luxure?
Alors, le projet, en fait, était très clair pour moi. C'était de participer seulement si je pouvais faire ce péché-là.
Voilà, le péché de luxure, vous voulez dire?
Le péché de luxure, voilà, exactement. Seulement si je pouvais travailler sur ce péché, parce que ça m'intéressait vraiment de me plonger de manière, assez soutenue dans tout ce qui est le rapport au corps, qui est un sujet qui m'a toujours habité. Cette sorte de noce entre corps, esprit, chair, esprit, et le rapport justement de tout ce qui est spirituel, en fait, dans le rapport au corps.
Voilà. Effectivement, c'est un texte de feu hein, sur l'éros que vous signez, hein, Laurence Nobécourt.
C'est un texte de feu, oui, tant mieux. Oui, c'est vraiment sur l'éros, que j'appelle l'éros divin, d'ailleurs, dès le début du texte, qui est, d'une certaine manière, le contraire de la luxure dont je dessine les contours comme étant une luxation de l'âme, c'est-à-dire quand il y a consommation de la chair sans qu'elle soit habitée ni par le cœur ni par l'esprit. Et à l'opposé de cela, j'oppose ça, oui, la noce, la spiritualité que représente, et c'est ma conviction et mon expérience, je dirais, la sexualité, voilà, lorsqu'elle est justement en lien avec l'amour. Et elle se fait prière à ce moment-là pour moi. Et c'est vraiment ce dont j'avais envie de parler et d'approfondir, de témoigner de ça par la langue et l'importance aussi de la langue là-dedans, parce que c'est l'espace du désir.
Alors, la luxure, hein, la définition qui en est donnée, c'est un dérèglement dans l'Église catholique, c'est un dérèglement du rapport à son corps et aux autres. Seul le plaisir personnel compte, alors que tout dans une sexualité épanouie se partage. La sexualité n'est pas un mal, elle participe à l'acte créateur et à la croissance de l'amour. Il ne faut pas la confondre avec la luxure. Vous partagez cette définition?
Oui, complètement. C'est-à-dire que la sexualité, lorsqu'il y a de l'autre, devient merveille. Et la beauté des corps, l'épanouissement, la plénitude, qui sont vraiment possibles par la sexualité, ça existe lorsqu'il y a l'autre. Voilà. Et pas justement que soi, en effet, quand on est tout seul avec le corps de l'autre, ça fait de la nuit, de la ténèbre. Et c'est post tenebras lux, voilà. Après les ténèbres, la lumière, c'est aussi une façon de raconter comment la narratrice raconte, comment cette ténèbre-là abîme, comment elle blesse et comment en sortir aussi.
Une sexualité effectivement mal vécue, mal comprise. Post tenebras lux, donc la lux, la nuit après les ténèbres, c'est effectivement le titre hein, que vous avez donné à la luxure ou de l'ouvrage, oui. Vous avez vécu, vous, la lumière?
Ah oui, oui, mais la ténèbre aussi.
Et les ténèbres aussi, oui, ça ressort effectivement très nettement de votre livre,
oui,
hein, Laurence Nobécourt.
Mais j'avais la conviction, étrangement, qu'il y avait l'équivalent de lumière à mesure de la ténèbre. Et oui, j'ai rencontré ça, finalement, dans l'amour et avec l'homme avec qui je vis aujourd'hui, mon mari, et qui a été vraiment le pendant de toute cette ténèbre et je n'ai pas été déçue de par rapport à l'espérance en fait que j'avais de la sexualité comme prière, comme lumineuse. Et j'ai été éduquée chez les sœurs, chez les Ursulines, donc il y avait beaucoup de charges très culpabilisantes par rapport à la sexualité. Et j'ai toujours eu la conviction que c'était un don, une merveille. Mais le chemin a mis un peu de temps parfois pour trouver le chemin de la lumière. Mais ce qui est beau, c'est de faire le chemin.
Ce que vous écrivez, Laurence Nobécourt, vers la fin du livre, ce que je cherche dans notre lien,
Ce n'est pas la jouissance, c'est beaucoup plus grand que cela. Ce que je cherche, c'est Dieu. Je pourrais le dire comme ça, Dieu, ce serait une nuit qui, à force d'être la nuit, deviendrait lumière.
Oui, c'est-à-dire que je crois que c'est en m'enfonçant dans la ténèbre, je crois que c'est cela que je cherchais. C'est-à-dire avec la naïveté, une sorte de candeur innocente d'ailleurs, enfin qui a de ses origines par mon histoire, etc. Hein. Mais j'avais l'idée que c'était pas possible qu'il devait y avoir quelque chose de l'ordre d'une lumière au bout de la nuit. Mais je m'y suis prise un petit peu à l'envers, mais en même temps, c'est aussi ce que dit la narratrice, c'est-à-dire que tout cela donne une connaissance qui n'est pas dans les livres. Et le corps m'a appris, moi, beaucoup, par la sexualité, par la maladie. Ça a été vraiment un allié. Aujourd'hui, je le reconnais comme étant un allié.
Et avant ?
Ça n'a pas toujours été très facile. Ben non, parce que j'ai eu de l'eczéma pendant 40 ans, donc ça a été un peu compliqué de pouvoir le penser comme une grâce. Aujourd'hui, je pense que c'était une grâce qui m'a enseigné de manière incroyable, et je n'ai plus d'eczéma, donc le chemin se fait.
Il ressort nettement de votre essai, Laurence Bécourt, que eh bien, notre société ne sait pas s'y prendre en fait, avec le plaisir de la chair, qu'elle se fourvoie.
Oui, c'est-à-dire que c'est toute la distinction qu'il y a aussi entre la jouissance et le plaisir. Aujourd'hui, il y a un manque profond de verticalité, de sens, de transcendance. Et du coup, les gens sont réduits, si je puis dire, à une sorte de consommation très pulsionnelle pour être dans une jouissance qui se répète mais qui n'est jamais satisfaisante. Parce que je crois que l'humain porte en lui la soif du divin, de Dieu. On peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler l'infini, on peut l'appeler l'absolu, peu importe. L'humain porte cela en lui. Et comme la société aujourd'hui néolibérale, contemporaine, marchande, on va dire, ne propose aucun espace de transcendance pour l'absolu. Le monde marche un petit peu à l'envers tout de même. Et du coup, il y a cette consommation jamais satisfaisante, oui. Alors que le plaisir, au contraire, le vrai plaisir qui va vers quelque chose de l'ordre d'une plénitude, oui, évidemment, c'est satisfaisant, c'est apaisant, épanouissant, mais ça veut dire d'une certaine manière d'accepter en soi le fait que oui, tout n'est pas toujours plein, complet, et accepter en soi la perte, accepter la part d'imperfection et d'inachevé en soi. Et c'est ce qui laisse le trou, qui donne l'espace pour aller vers l'autre, pour qu'il y ait de la place pour le désir.
En conclusion, Laurence de Bécourt, à vous lire, finalement, la sexualité bien comprise, bien vécue, eh bien, est une spiritualité.
Absolument, oui. Je dirais même que c'est une voie majeure pour incarner le divin. Je dirais cela.
Merci, merci Laurence Nobécourt. Je rappelle le titre de votre essai, Post Tenebras Lux, autrement dit la luxure, et c'est publié dans la collection Les Sept Péchés Capitaux aux éditions du Cerf. C'est avec les mémoires d'un avare que nous refermons la collection des Sept Péchés Capitaux, signée par l'écrivain Louis-Henri de La Rochefoucauld, avec nous dans ce studio. Bonjour.
Bonjour à vous.
Alors, ça n'est pas un traité sur l'avarice, mais ce sont les confessions d'un champion de l'avarice. Des confessions recueillies par son médecin au soir de sa vie. C'est à la fois hilarant, mais c'est aussi une fable avec une vraie morale, hein, quand même.
Exactement.
Alors que votre héros de l'avarice, François Cassette, est un odieux personnage, quand même. Hein.
C'est un odieux personnage, mais j'ai essayé de le rendre quand même drôle. Quand Inès Loureiro, au CERF, m'a proposé d'écrire ce livre, je ne voulais pas faire justement une espèce de traité sérieux condamnant l'avarice. Je trouvais ça plus drôle de retourner ça et d'en faire une comédie.
Alors, votre héros s'appelle François Cassette. C'est un critique gastronomique qui est quand même très épouvantable parce qu'il a tué, si je puis dire, plusieurs grands chefs. C'est ça. Et c'est un homme qui est issu d'une famille, en fait, c'est le rejeton d'une famille très catholique. Le père était un homme tout à fait qui aimait le temps libre, manifestement, hein, oisif, comme on dit, mais qui, en même temps, avec ce catholicisme très ancré dans la famille, donnait beaucoup aux œuvres. Et lui va prendre le contre-pied complet, c'est-à-dire qu'il veut de l'argent, parce que la famille, manifestement, finit totalement désargentée, dans une sorte de rez-de-chaussée, c'est ça, dans Paris. Et lui va absolument prendre le contre-pied de son père. Il veut de l'argent, et d'argent facile.
Exactement, en fait, le livre, c'est vraiment les mémoires chronologiques de cet avare François Cassette. Et donc, en effet, c'est le rejeton d'un homme comme ça qui a voulu être une espèce de catholique jusqu'au boutiste et donc qui estime que celui qui n'a pas tout donné n'a rien donné. Et donc, il dilapide la fortune de sa femme, jette ses enfants dans la misère, un peu comme ce personnage de Marcel Aimé, Clérambard, dans cette pièce de théâtre célèbre où un homme comme ça, tout un jour, une apparition de saint François d'Assise. Et donc, il se décide d'appliquer au sens strict le franciscanisme. Et donc, en fait, bon, ça veut dire, tout donner et donc réduire sa famille à la plus extrême pauvreté. Et donc, ce personnage, étant un peu contrit par ça, lui voit l'avarice comme la voie du salut et le calcul, la ligne de conduite à suivre pour s'en tirer dans ce monde.
Mais alors, l'avarice avec de l'argent, avec beaucoup d'argent.
Oui, exactement. Alors, je précise que, ayant réfléchi un peu à cette question, c'est vrai que souvent, quand on parle d'avarice, en fait, on pense radinerie. Et en effet, il y a plusieurs facettes dans l'avarice. Celui qui, par exemple, a 3 euros dans la poche, un clochard lui demande 1 euro et il ne le donne pas, bon, ça, c'est de la radinerie. Pour moi, l'avarice, vraiment considérée comme un des beaux-arts, c'est en effet vraiment tout calculé. En fait, c'est le contraire de l'acte gratuit. C'est vraiment estimer que tout dans la vie doit être placement et que toute votre action doit pouvoir vous générer un profit. Et donc lui, se lance dans la vie dès ses 17-18 ans en n'ayant que l'argent comme objectif et en pensant chaque coup comme potentiellement un investissement.
C'est-à-dire qu'en fait, il va aller dans les boîtes de nuit qu'il faut, il va aller dans les lieux où s'ennuient des vieilles dames, hein, du côté de la coupole. C'est très parisien, de toute façon. Tout est à Paris.
Ça se passe pas mal à Paris. Alors, en effet, il fut un temps, paraît-il, à ce qu'on m'a raconté, hein, parce que je suis trop jeune pour avoir connu ça, mais il paraît que la coupole était un lieu de rendez-vous entre gigolos et vieilles femmes riches. Et donc, je pense que le côté gigolo est une bonne... les avares, je pense, souvent commencent un peu gigolo, souvent comme ça, entretenus. Avant, évidemment, de passer par le mariage d'argent qui est le passage obligé de tout avare qui se respecte.
Il y a cette histoire parisienne que l'on raconte de cet homme qui, ayant épousé une femme riche, eh bien, disait d'elle, elle est belle de dot.
Ah, ça, c'est une célèbre histoire. Est-ce que c'est pas Bonnie de Caslan, d'ailleurs? Non.
Si, c'est ça, ouais, voilà. Ouais. Je ne voulais pas citer le nom, mais c'était ça. Alors, c'est un peu ça. François Cassette, lui, il recherche des femmes riches. Des femmes qui pourront lui permettre de vivre au crochet de ces femmes riches de façon tout à fait agréable.
Exactement, c'est vraiment un homme, je vous dis, très calculateur, très froid, et qui en effet recommence. Il a une liaison d'abord avec la femme d'un homme très riche, qui se retrouve à vivre rue Barbet-Jouy après la mort de cette...
Dans le 7e.
Exactement, dans cette rue où vit Bernard Arnault. Signe que c'est une adresse pour les gens qui ont quelques moyens devant eux. Et après, il fréquente, parce que donc c'est un personnage qui naît en 58, que j'ai fait naître en 1958. Et donc, il se retrouve à la fin des années 80, la trentaine approche, et il sent que là, il faut qu'il se casse quoi, assez vite. Et donc, il va au Bain Douche, qui était la boîte quand même emblématique de cette époque. Et là, il y a un chapitre où je mets en scène ce personnage... ayant une espèce, pas de carnet de balle, mais enfin vraiment essayant de voir quel est le patrimoine de chaque fille qu'il rencontre là-bas. Et donc, il finit par jeter son dévolu sur l'héritière d'une grande fortune du sucre. Et donc, il fait tout pour séduire cette fille en espérant l'épouser.
Et il l'épouse.
Et il réussit dans cette sinistre entreprise. Alors, je sais pas aujourd'hui, je pense que ce personnage vivra aujourd'hui, il essaierait plutôt de séduire la fille de quelqu'un ayant réussi dans les GAFAM. Il essaierait de séduire la fille de Jeff Bezos, par exemple. Mais voilà, ça se passe à la fin des années 80, donc c'est encore des fortunes un peu à l'ancienne, je dirais.
Pour vous, c'est un vice des temps modernes, ce que vous décrivez dans, ce, dans cet essai, dans ce roman ?
Alors, c'est intéressant parce que c'est vrai que, en réfléchissant un peu à la question, je me demandais s'il y avait sur ces sept péchés capitaux un qui vraiment était plus l'époque. Mais...
Il n'est pas démodé, celui-là. Il a toujours existé.
Ah non, mais en effet, je pense que de toute façon, c'est, tout ça est intemporel parce qu'on peut dire. Je pense que l'orgueil est peut-être le péché qui englobe le plus les autres. Mais l'avarice, oui. Depuis que la première pièce d'or a été inventée, c'est un vice qui ne s'est jamais perdu.
Mais alors ce personnage, François Cassette, il est quand même un peu méchant aussi. Il est non seulement avare, mais il est méchant. Alors ça, c'est pas dans les sept péchés capitaux, mais on pourrait le mettre aussi. Là, l'Église a été un peu, à mon avis, restrictive là-dessus. Il va effectivement faire des critiques tout à fait dures, et donc faire plonger, semble-t-il, des restaurants. Et puis même, par exemple, il n'a pas d'enfant, mais quand un de ses deux vœux se marie, eh bien, il va lui faire un sale coup.
Exactement, oui. Alors ça, c'est vrai que je pense que un avare, de toute façon, un avare digne de ce nom ne peut pas avoir d'enfant, parce que c'est...
C'est partagé.
Voilà, c'est pas partagé, possible. Etc., c'est pas possible. Non, non, donc ça, c'est vraiment une faute de goût pour un avare d'avoir un enfant. Et en effet, un jour, son filleul... Qui lui est un peu sans le sou, lui demande s'il peut l'aider à financer son mariage. Et donc François Cassette, évidemment, décide de lui faire un mauvais coup, lui promet de tout payer. Et en fait, le jour du mariage, le malheureux filleul s'aperçoit qu'en fait, rien n'a été payé et que son oncle ne paiera rien. Et donc voilà, c'est le sujet d'une petite brouille.
Louis-Henri de La Rochefoucauld, est-ce que vous êtes inspiré de personnages de votre famille ?
Alors écoutez, ça serait trop méchant s'il y en a qui écoutent. Non, moi je dois dire qu'il y a une histoire de famille qui me plaît beaucoup, mais c'est plutôt dans l'autre sens. C'est plutôt des gens qui dans ma famille avaient épousé des femmes ou des hommes riches et qui en fait étaient extrêmement mal à l'aise avec ça parce que justement on pouvait penser que ça avait été des mariages intéressés. Donc c'était des gens qui, oui, en fait dépensaient peu d'argent pour, je sais pas, comme si... Donc d'une certaine manière, on pouvait penser, ils étaient radins d'une certaine manière, mais... par bonté, enfin pour montrer qu'ils aimaient leur conjoint pour des raisons plus... Donc voilà, ça a pu m'inspirer. Sinon, non, je me suis inspiré de tas d'autres modèles. Et en termes d'écrivain, parce qu'on m'a posé la question l'autre jour, je pense qu'un type comme Paul Morand, par exemple, était un bon exemple de l'avarice, étant un homme très sec de cœur, ayant lui-même été un peu gigolo quand il était jeune, se faisant entretenir par des femmes plus riches, ayant épousé une femme très riche, n'ayant pas eu de descendance légitime, n'ayant eu qu'une fille naturelle, à qui d'ailleurs il n'a rien donné. Bref, voilà. Paul Morand sera un bon modèle, peut-être, pour ce personnage.
Alors, au soir de sa vie, donc, il y a ses confessions. Il a tout à fait le sentiment d'être passé à côté de sa vie. Est-ce que c'est ça la fable, la morale de cette histoire ?
La morale de cette histoire, ouais, je voulais quand même essayer de...
C'est votre sentiment chrétien
qui
émerge.
Voilà,
c'est ça, c'est votre éducation.
Un livre publié au CERN ne pouvait que se terminer de manière morale. Et non, il se trouve en fait qu'il y a un texte que j'adore qui est le Sermon sur le mauvais riche de Bossuet, que j'avais redécouvert au moment où il y a eu cette crise des gilets jaunes. On avait vraiment l'impression que Bossuet parlait des gilets jaunes, parce que c'est un texte incroyable d'ailleurs, où il est à la cour de Louis XIV et il dit « Mais vous ne vous rendez pas compte de toute cette misère au pied de vos châteaux, de vos hôtels, vous devriez donner, même si vous ne donniez que les miettes de vos repas gargantuesques. » Et donc, à la fin, ce personnage se retrouve malade, cloîtré chez lui, avenue Foch, puisque après avoir vécu rue Barbedjou, il vit avenue Foch. Il est légèrement rattrapé, bien qu'étant très méchant et incorrigible et impardonnable, il est rattrapé quand même par une certaine sympathie pour ces casseurs qui sont là, puisque ça se passe, ça se termine du coup... En 2018, au moment où il y avait eu des combats entre les gilets jaunes et la police à l'angle de la rue Picot et de l'avenue Foch. Et donc voilà, c'est là que j'ai situé mon personnage à la fin.
Un personnage qui est accompagné par sa nièce, étudiante en médecine.
Exactement.
Et ça, il y a effectivement une rencontre entre deux qui est passionnante. Et c'est là où se situe la morale de l'histoire, c'est qu'elle, elle est étudiante en médecine, lui propose son héritage... Finalement, tout son héritage, elle n'en veut pas. Elle lui dit, moi, ce que je veux, c'est que vous viviez. C'est une jeune femme absolument pas intéressée. Et lui, là, il est face à une vérité qu'il s'est cachée toute sa vie, en fait.
Oui, en effet, j'ai essayé de faire une scène un peu... Un autre modèle de ce livre, pour parler encore de grands noms, était le Sacha Guitry de Mémoire d'un tricheur.
Oui.
Et c'est vrai que cette scène-là est un peu théâtrale, guitriesque, puisque du coup... La situation se renverse et lui ne comprend pas. Donc pour lui, c'est que toutes les valeurs se sont perdues. Il ne comprend pas qu'on ne puisse pas être avare. Pour lui, c'est vraiment la fin du monde, quoi. Et en effet, cette jeune fille lui explique qu'elle n'a pas envie parce que donc ce personnage a un tableau de Monet dans son salon. Elle lui explique qu'elle ne veut pas de ce Monet, qu'elle ne veut rien. Et il est choqué par une attitude aussi inconvenante.
C'est ça, ce Monet, même lui, il le regarde finalement même plus avec plaisir. Alors, il faut dire qu'il est très malade, il est atteint de la maladie de Charcot. Exactement. Il va en mourir à la fin d'année 2018.
Ouais.
Et effectivement, il se rend compte que même tout ce qu'il a acquis, dont ce fameux Monet, eh bien, ne lui procure plus du tout de plaisir. Il sent tout cela assez vain. C'est une morale chrétienne, c'est une morale religieuse, j'allais dire.
C'est peut-être un peu janséniste, mais à vrai dire, je pense que ça c'est quelque chose qui s'appliquerait bien à la gourmandise. Parce qu'on voit bien que la gourmandise, manger un petit morceau de foie gras, c'est un plaisir. Mais si on vous dit, va manger 10 foie gras à la suite, c'est absolument écœurant. Et donc oui, ce personnage, en fait, a accumulé beaucoup de richesses et au fond, il n'en fait rien. Et oui, il y a quelque chose d'écœurant. Et donc c'est vrai, comme ça dit, ça, je pense que c'est applicable à tous les péchés. En fait, à petite dose, ça peut être un plaisir et c'est agréable. Et dès que ça... tous les vices, et quand c'est trop, c'est dégoûtant.
C'est un peu subversif, votre essai.
Ah bon, je sais pourquoi.
Non, mais parce qu'il y a une sorte de provocation. Cet homme que vous mettez en avant, qui accumule toutes ses richesses, et puis, il y a un message, il y a un message, très clairement. Il y a un message.
Alors moi, je veux dire que je suis vraiment l'homme du monde le moins doué pour gagner de l'argent. Donc, c'est pour ça que ça m'amusait aussi de mettre en scène ce personnage. Moi, je dois dire que oui, ça, j'aimerais bien savoir mieux gagner de l'argent. Non, il y a un truc, dans l'époque, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre, c'est le fait que les plus grands milliardaires actuels continuent d'être dans cette espèce d'accumulation
toujours sans fin.
Ouais, dans un truc, on se demande, voilà. Alors là, d'ailleurs, maintenant, ils se lancent dans la conquête spatiale aux États-Unis, donc voilà, il n'y a pas de limite. Maintenant, il faut chercher dans le ciel une limite. Et donc, c'est vrai que oui, un message moral, oui, mieux vaut peut-être être... Plutôt que de se lancer dans la conquête du ciel, mieux vaut avoir une vision du ciel à l'ancienne. Donc, en effet, chrétienne
ou spirituelle.
Spirituelle, voilà.
Je vous remercie, Louis-Henri de la Rochefoucauld. Donc, je rappelle le titre de votre essai, « Mémoire d'un avare ». Et c'est publié aux éditions du Cerf dans la collection donc « Les sept péchés capitaux ». Merci.
Merci à vous. I work all night, I work all day to pay the bills I have to pay. Ain't it sad? Still, there never seems to be a single penny left for me. That's too bad. Now, in my dreams, I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all or fool around and have a ball. Money, money, money must be funny in the rich man's world. Money, money, money always sunny in the rich man's world. All the things I could do if I had a little money. It's the rich man's world.
C'est la fin de cette émission présentée par Geneviève Delrue avec la collaboration de Véronique Durand. La réalisation est signée Ludivine Amado. À dimanche prochain. Bonne semaine à tous. All the things I could do if I had a little money. It's the rich man's world. L'atelier des médias.